Je rêvais d'un autre monde. Alors, c'est le titre d'une chanson bien connue du groupe Téléphone, que l'on entend souvent en ce moment d'ailleurs sur les ondes ou dans les publicités, et chantée par Jean-Louis Aubert. Mais c'est le titre aussi d'une pièce de théâtre destinée à sensibiliser le public à l'autisme. Je rêvais d'un autre monde. Dans un monde traversé par de multiples crises sanitaires, économiques, écologiques, politiques, l'avenir semble incertain. D'après un sondage Ipsos, le peuple français fait partie des plus pessimistes du monde. C'est le propos de Matt Moury sur les mots de l'espérance. Je rêvais d'un autre monde. Cette phrase n'est pas dénuée de sens, car il y a bien au fond de nous la perception qu'il existe autre chose ou qu'il peut exister autre chose sur cette terre. N'avons-nous pas en nous la pensée de l'éternité ? Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette phrase ou ce slogan, c'est-à-dire « Je rêvais d'un autre monde », cette phrase ou ce slogan fait écho à ce slogan que je citais lors de mon intervention fin juin. Souvenez-vous, on vaincra la mort, comment ? Avec l'amour. On avait vu ça dans un média une fois. On vaincra la mort comment ? Avec l'amour. Affirmation vraie et fausse. Vraie car la mort ne sera vaincue, mais fausse car l'homme ne peut pas le faire. Sa nature entachée par le péché est incapable d'une telle prouesse. L'homme ne vaincra jamais la mort avec l'amour, mais c'est Dieu qui le fait. J'utilise volontairement le présent car la mort a été vaincue pour nous par la résurrection de Jésus. Nous avions vu fin juin que dans notre situation terrestre, nous gémissions dans l'attente de notre nouvel état. Ecclésiaste 12, bien connu, nous donne une idée très réaliste de ce que notre état de pécheur va faire de nous. Ce mode de dégradation physique, l'entropie, et c'est la raison pour laquelle le sage recommande de tenir compte de son Créateur au temps de sa jeunesse. Et c'est dans ce qui va suivre de mon développement qu'il faut y voir une sage recommandation pour la transformation spirituelle de nos propres vies. Nous gémissons parce que Dieu nous prépare à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va engloutir notre corps mortel pour le transformer en un corps céleste incorruptible. L'apôtre Paul le rappelle à plusieurs reprises dans ses écrits, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens et aussi aux Philippiens. Et ce rappel qu'il leur dit aussi, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Philippiens chapitre 3, verset 20. J'avais évoqué l'image de la chenille rampante qui se transforme en un être magnifique, volant et rapide. Ce sera pour elle un changement extraordinaire et radical. Nous ne savons pas si la chenille se lamente ou gémit de son état. Par contre, en tant que chrétien, pour lesquels Dieu a mis dans le cœur une vie nouvelle à venir, nous gémissons dans notre état et nous languissons à cette nouvelle vie. Nous attendons avec impatience ce qui devient pour nous une chose dont on éprouve le besoin et qu'on désire ardemment. Nous soupirons à cette nouvelle vie, n'est-ce pas ? Nous soupirons à cette nouvelle vie. Alors c'était là le premier des trois points proposés, à savoir nous gémissons. Nous gémissons dans cette tente qui est notre corps terrestre. Notre deuxième point sera, nous sommes toujours pleins de confiance. Et notre troisième point, nous nous efforçons de lui être agréable. Je vous invite à reprendre la lecture de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10, de 2 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Nous verrons donc aujourd'hui les deux points suivants. Nous sommes toujours pleins de confiance et nous nous efforçons de lui être agréables. Et le thème de ce message, comme vous avez pu le lire, est toujours l'espérance du ciel. Nous avions vu comment l'apôtre Paul, en but à une attaque personnelle, a recadré les chrétiens de Corinthe sur leur espérance quant à leur avenir, en les motivant à considérer leur situation terrestre et en la comparant à leur devenir céleste. Nous gémissons ici-bas dans ce corps mortel et déficient, mais nous sommes pleins de confiance quant à ce qui va suivre après notre mort. Et en cela, nous nous efforçons d'être agréables à notre Seigneur. Nous sommes toujours pleins de confiance. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage ou de confiance, et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Quelle est notre situation actuelle? Où en sommes-nous sur cette terre? Pour beaucoup, sur cette terre, la vie se résume à subsister, tant bien que mal, naître, grandir, travailler, jouir de la vie, vieillir, mourir. Nous connaissons tous le dodo, métro, boulot. Évidemment, dans chaque vie, il y a des nuances. La confiance en quoi? En qui? Pour Paul, il n'y a aucun doute sur ces questions. Mais pour tout un chacun sur cette terre, il en va tout autrement. En qui? En quoi mettre notre confiance? Telle est la question que se pose l'homme aujourd'hui. Nous avons tous entendu tout dernièrement Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine, qui s'est tout récemment posé la question envers des proches. en qui il avait confiance et qu'il a dû écarter. Au psaume chapitre 118, versets 8 et 9, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. » La journaliste Anne Niva, dans son livre « La France de face », a parcouru la France au devant des Français pour tenter de répondre à cette question, entre autres. Elle y traite du ressenti de personnes différentes et de régions différentes quant à leur vécu, au jour le jour, sans arrière-pensée politico-économique, mais avec le souhait de connaître les préoccupations quotidiennes des Français. Sa conclusion est sans appel et dit ceci, écoutez bien. La confiance est une denrée rare et fragile. On ne la trouve plus que chez ses proches, sa famille ou ceux que l'on estime bien connaître. Elle résulte toujours d'efforts. Ainsi que le montre depuis 11 ans un baromètre chargé de mesurer l'ampleur de la fracture politique, dès que la distance sociale s'accroît, la défiance surgit. Hormis envers leur conseil municipal, les Français ne se fient plus à quiconque. Si 50% de la population fait plutôt confiance à son ou sa maire, ce chiffre tombe à 29% concernant le président de la République. 29% de la population pense être traitée par la société avec mépris et 24% avec injustice. Pis encore, 49% de la population pense que la démocratie française, ne fonctionne pas bien. Pour le croyant, le membre du peuple de Dieu, le chrétien, la vie actuelle se déroule dans l'attente du retour du Seigneur. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, que nous avons lu précédemment. Nous sommes comme des étrangers qui vivons dans un pays lointain. Hébreux chapitre 11, et versets 13 à 16, et 1 Pierre chapitre 2, verset 11, que nous allons voir maintenant. Hébreux. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est en parlant des héros de la foi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'exprime ainsi. Mais chaque disciple, par sa foi, devient un héros de la foi. Nous sommes des héros de la foi. Pierre, que dit Pierre ? Bien-aimé, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'homme. Résident, temporaire et étranger sur la terre. Notre communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit est une réalité. Mais elle n'est qu'une anticipation imparfaite de ce que sera la communion avec Dieu dans la présence du Seigneur lui-même. Nous avons en nous comme une quête profonde qui est celle de l'éternité. Nous la ressentons comme si elle était déjà commencée. C'est Dieu qui fait ça en nous. L'Esprit de Dieu nous en convainc et il met en nous une confiance telle que nous savons que cela va se produire, car déjà, nous aspirons à cette nouvelle vie. Déjà, nous aspirons à cette nouvelle tente. Nous l'attendons avec un ardent désir. Nous gémissons, mais bientôt, nous serons délivrés. Pourquoi avons-nous cette confiance ? Parce que nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Le jour où nous verrons ce que nous espérons, la foi deviendra inutile. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Nous en arrivons à notre troisième point. Le deuxième pour aujourd'hui. Nous nous efforçons de lui être agréable. Que nous restions dans ce cœur ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Nous nous efforçons de lui être agréable. Paul est en train de dire que nous soyons dans ces temps où ce corps mortel entaché par le péché ou que nous ne le soyons plus, notre ambition est de plaire au Seigneur. Lui plaire quel que soit notre corps. Alors, on pourrait développer cette seule affirmation-là, mais cela prendrait beaucoup trop de temps. Lui plaire quel que soit notre corps. On pourra voir ça une autre fois. Il est étonnant de voir comment Paul considère son état. L'état du chrétien. Car en restant dans la droite ligne de son raisonnement, il insiste sur notre situation temporaire ici-bas. Cette situation est celle de quelqu'un qui est de passage, qui subit une transformation et qui sera totalement transformé. Et dans cette transformation, notre désir est de plaire au Seigneur. Notre ambition est de plaire au Seigneur, de lui être agréable. Alors que nous gémissons dans cette tente, que nous sommes toujours pleins de confiance à cause de l'espérance que nous avons en Christ, nous cherchons à lui plaire. Il semble impensable que quelqu'un qui a reçu d'un autre une marque d'affection, des biens ou de la bienveillance, ne cherche pas en retour à lui manifester de la gratitude en lui plaisant ou en lui étant agréable. Si ce n'est pas le cas, on appelle cela soit de l'indifférence, soit de l'insensibilité, pardon, ou en tout cas de l'ingratitude. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Notre chant de tout à l'heure. Michée a parlé vers 730 avant Jésus-Christ, comme Ésaïe d'ailleurs, ils sont de la même période à quelque chose près. Il s'adressait aux deux peuples, donc Michée s'adressait aux deux peuples issus du schisme d'Israël, à savoir Juda, le peuple du sud, et Israël, celui du nord, qui est devenu ensuite le peuple samaritain. Au début de son livre intitulé « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille », J.D. Greer reprend quasiment les mêmes termes que Michée. Il dit ceci, « Ce que Dieu désire, c'est que nous entretenions une relation avec lui. Il recherche des personnes qu'il adore en esprit et en vérité. Non seulement il nous demande de mettre en pratique le droit et d'aimer la bonté, mais il veut aussi que nous marchions humblement avec lui. Rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau devant Dieu. Nous recherchons la volonté de Dieu. C'est Michée qui dit comment faire. Nous attendons une transformation de notre corps au jour du Seigneur lorsqu'il reviendra, mais déjà, dans ce corps déchu, nous pouvons nous laisser transformer par le renouvellement de notre pensée. La transformation attendue a déjà commencé. Elle a déjà commencé pour ceux qui sont en Christ par la sanctification. Et ce remodelage que le Saint-Esprit fait en nous. C'est cela la sanctification. Ce remodelage qu'il n'a de cesse d'entreprendre chacun de nous au fil des jours, des mois et des années. Au jour de notre mort, il n'atteindra pas la perfection, mais notre désir est de plaire à notre Sauveur. Dans notre désir de plaire à notre Sauveur, ce remodelage y tendra. La mort purifiera alors ce qui manquera à cette perfection attendue par le Seigneur. Car il transformera lui-même notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Encore Philippiens chapitre 3 verset 20. Et ensuite l'apôtre insiste. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Philippiens chapitre 4 verset 1. Car chacun recevra ce qui lui revient, selon ses actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli dans son cœur. C'est le verset 10 de notre passage de 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous rêvons d'un autre monde, nous aspirons à l'éternité, nous voulons vaincre la mort. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 et 18. Le ministère de la réconciliation, c'est le témoignage de ce que Dieu veut pour le pécheur. Notre espérance du ciel n'est pas vaine. Car les promesses de Dieu se réalisent. Notre corps mortel sera changé en un corps céleste incorruptible. Et notre nouvelle vie en Christ a déjà commencé à nous transformer pour le jour glorieux de son retour. Amen. Je vous invite à prier.